Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand des humains sont-ils réduits en esclavage? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Paulin Ismar. Aujourd'hui, quatrième épisode, l'Occident médiéval. Longtemps, on a cru que la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle après Jésus-Christ avait entraîné la fin de l'esclavage. En réalité, réalité dérangeante, en Europe occidentale, l'esclavage a bien continué d'exister et même de prospérer à côté du servage et sans doute, cela semble inimaginable, jusqu'au 16e siècle. Après les invasions barbares, les esclaves sont toujours maintenus au rang d'objet ou d'animal. Par exemple, la loi salique des Francs précise que le vol d'un porc est puni de 15 sous, de 45 sous pour un cheval ou un taureau, mais seulement de 35 sous pour un bœuf ou un esclave. Un esclave a donc la même valeur qu'un bœuf, mais il vaut moins qu'un cheval. En France, le port de Marseille jusqu'au XVIIe siècle restera célèbre pour son marché d'esclaves. En Toscane, jusqu'au XIVe siècle, toute famille riche possède au moins un esclave. Un luxe qui se maintiendra jusqu'à l'arrivée des troupes de Bonaparte. Tandis que le port de Venise prospère par le commerce, entre autres d'esclaves qui proviennent de l'Est de l'Europe. Russes, Dalmates, Bulgares, Slovènes, Bosniaques, Albanais, Grecs et bien d'autres. Mais comment l'Église s'accommode-t-elle de l'esclavage?
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Comme à la fin de l'Empire romain d'Occident, l'Église au Moyen-Âge recommande aux maîtres d'affranchir leurs esclaves. Mais ce n'est qu'une recommandation, pas un ordre. L'Église, qui prétend privilégier la vie spirituelle sur la vie matérielle, se garde de mettre en cause l'ordre établi et ferme donc les yeux sur les injustices sociales. Sa doctrine découle notamment des théories développées par Paul dans ses épîtres, que chacun reste devant Dieu dans l'état où il était quand il a été appelé, écrit Paul. Tu as été appelé esclave, ne t'en mets point en peine. Au contraire, mets au profit ton état de servitude, car celui qui a été appelé étant esclave est un affranchi du Seigneur. Au 5e siècle, Augustin théorise l'idée selon laquelle l'esclavage est à déplorer, certes, mais qu'il s'explique par le péché originel, comme un mal, certes, sinon nécessaire, du moins naturel. Dans le même esprit, saint Thomas d'Aquin, au 13e siècle encore, affirme que l'esclavage est une nécessité terrestre. L'homme a besoin d'esclaves, écrit-il. Rares sont donc les voix de l'Église qui condamnent cette pratique. À l'époque carolingienne, un moine, appelé Smaragde de Saint-Mihiel, supplie son souverain, « Ô roi très clément, interdis toute servitude dans ton royaume. » Mais il est bien seul. L'Église n'oublie pas qu'elle-même emploie des esclaves. À Paris, par exemple, le monastère de Saint-Germain-des-Prés, au début du 8e siècle, emploie plus de 8000 esclaves. Tandis qu'autour de Rome, pendant tout le Moyen-Âge, des milliers d'esclaves travaillent sur les grandes exploitations agricoles du pape.
Parfois, je m'absente avec le sénateur Gallio. Dans ce cas, l'esclave de service à la porte est chargé d'allumer les lampes. Être esclave dans cette noble famille est un honneur.
Être esclave n'importe où, c'est d'être un chien.
Paulin Ismar, j'ai été surprise en préparant cette émission de découvrir que l'esclavage s'était maintenu pendant tout le Moyen-Âge. C'est une découverte relativement récente des historiens.
Alors, c'est peut-être pas une découverte, disons que c'est un regard nouveau que les historiens jettent désormais sur les sources médiévales. Il y a une question terminologique qui est quand même difficile de toute façon à trancher. C'est-à-dire qu'on a le même terme, « servus », qui sert à désigner des esclaves, disons, dans la Rome du 1er, 2e, 3e siècle, et qu'on utilise dans l'Occident médiéval des 9e, 10e siècle. Et pendant longtemps, on considérait que d'un côté, il fallait traduire ce terme par « esclave » quand on était à Rome, et par « serf »,« servage » quand on parle du monde carolingien.
Bon, et quelle est la différence entre l'esclave et le serf ?
Dans l'esclavage, il y a une forme de ce qu'on appelle mort sociale de l'individu. Il y a une dépersonnalisation profonde de l'individu qui perd son nom, qui peut avoir des enfants, mais sans qu'aucun lien de parenté n'existe entre lui et ses propres enfants, puisqu'ils appartiennent à son maître, qui a un droit de propriété absolue sur sa personne. Dans le cas du servage, d'abord, le cerf est attaché à un territoire. Et donc, il ne peut pas être aliéné, quitter ce territoire et être vendu au loin. Par ailleurs, il n'y a pas ces éléments de dépersonnalisation qu'on trouve dans l'esclavage. Des liens de famille peuvent exister, des liens de parenté peuvent exister à l'intérieur même du servage. Et de manière plus générale encore, la propriété qui pèse sur un cerf pèse à la fois sur le territoire qu'il exploite et sur la personne qui travaille la terre.
Comment est-ce qu'on peut dire que l'esclavage s'est maintenu pendant tout le Moyen-Âge en Occident ?
Identifier le moment où des formes de servitude qu'on appelle esclavage à la fin de l'Empire romain se transforment progressivement au point de devenir ce que nous, théoriquement, on appelle le servage, c'est quelque chose de très difficile. Ouais. Ce que font les historiens aujourd'hui, c'est qu'ils se rendent compte que cette mutation, elle n'a certainement pas lieu au 4e, 5e siècle de notre ère. C'est plutôt un processus très très long qui vraiment parvient à maturité, disons, à la fin du premier millénaire dans un certain nombre de régions de l'Occident médiéval. Par ailleurs, ce qui est très bien connu et sur lequel il y a beaucoup de travaux récents, c'est l'existence de réseaux de traite portant sur des individus captifs faits esclaves, qui sont parfois réduits à l'état d'esclavage marchandise. Et ça, ces réseaux de traite continuent à exister, vous le mentionniez, en Méditerranée, pendant toute l'époque médiévale. Et puis, aussi dans le nord de l'Europe, parce qu'il faudrait évoquer l'importance de la traite viking et de l'esclavage dans le monde viking, qui d'ailleurs met en relation le nord de l'Europe avec certaines parties du monde arabo-musulman, puisqu'on a pu trouver des dirhams abbassides sur des sites archéologiques vikings. Et la façon dont on explique la présence de ces pièces de monnaie, c'est en raison de réseaux de traite portant sur des êtres humains et mettant en relation le monde viking, donc le nord de l'Europe, avec le monde arabo-musulman. Donc
la
traite des êtres humains continue à exister pendant tout le Moyen-Âge.
Oui, j'ai découvert qu'il y avait des véritables marchés d'esclaves au Moyen-Âge dans des villes comme Marseille, Venise, Gênes, Barcelone.
Tout à fait. Alors ça, dans l'espace méditerranéen, ces marchés d'esclaves ont continué à exister. Tout à fait. Et dans le nord de l'Europe.
Et dans le nord également.
Par exemple, certains historiens, archéologues, pensent que, par exemple, Dublin, au départ, a peut-être été un marché d'esclaves viking.
Et personne donc ne s'en offusque vraiment dans l'Église. C'est un peu un problème général par rapport à l'esclavage. Toutes les religions s'en accommodent finalement.
C'est vrai qu'il n'existe pas de pensée abolitionniste à l'intérieur même de l'Église au Moyen-Âge. Ça, c'est absolument certain. Après, les pères de l'Église, à partir de la fin de l'Antiquité, sont condamnés à proprement parler l'institution de l'esclavage, ont défendu, ont voulu d'une certaine façon réformer certaines dimensions de ce qu'était l'esclavage dans le monde romain. Par exemple, en portant une attention tout à fait particulière à la question des familles d'esclaves. Il faudrait pouvoir d'une certaine façon attacher des esclaves à des exploitations en reconnaissant le lien qui peut exister entre un homme et une femme esclave qui ont des enfants. Enfin, voilà, des choses que...
Oui, la question du baptême, grand... par exemple, que ces enfants soient baptisés, par exemple.
Tout à fait.
Ce qui leur donne une identité.
Et ça fait partie. Ça fait quand même partie, disons, de la lente et complexe transition qui conduit de l'esclavage antique au servage médiéval.
C'est étonnant comme on peut considérer des humains comme étant des objets et en même temps on sait que ce sont des humains. C'est la question de fond d'esclavage finalement.
Absolument. C'est pas contradictoire, on peut considérer, et c'est dans le droit romain lui-même, les esclaves à la fois comme une chose et comme une personne.
Oui, parce que même dans le
code
d'Hammurabi...
C'est vraiment au cœur du fonctionnement de ces sociétés.
Même dans le code d'Hammurabi, il y a cette distinction entre les trois ordres de la société de Babylone. Il y a les esclaves en bas, qui sont considérés comme des marchandises, mais en même temps, on ne met pas les animaux avec eux. Donc ça veut dire qu'on considère quand même que ce sont des hommes. C'est bizarre.
Absolument. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de textes anciens, aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, qui mettent en doute véritablement l'humanité de l'esclave. Alors après, des textes qui néanmoins peuvent avoir une conception très hiérarchique des différents statuts qui à l'intérieur même de cette humanité.
Oui, c'est des choses que nous, on a du mal à penser à notre époque. Merci, Paulin Ismar. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la traite et de l'esclavage dans le monde arabo-musulman.